Ce matin, on continue notre série dans l'évangile de Marc. On est au chapitre 10 et ce passage ce matin, les versets 32 à 52, va nous amener à nous questionner sur la grandeur. Qu'est-ce que c'est la grandeur? Et bien sûr, l'objectif c'est de voir aussi ce que Jésus dit. Qu'est-ce que c'est qu'être grand? Je crois que je ne prends pas beaucoup de risques en affirmant que d'une certaine manière, nous aspirons tous à être grands. On aspire à la renommée, on aspire à avoir de l'impact dans la vie des gens, on aspire à avoir une certaine influence, on a envie d'être connu. Je regardais cette semaine un film qui vient de sortir, un très beau film, et je ne vais pas vous révéler le nom, parce que je vais en révéler une petite partie, donc pas vous décourager d'aller le voir, mais dans ce film, on voit parmi les personnages principaux une femme qui est avocate et qui a misé toute sa vie, toute son énergie dans le fait de devenir une brillante avocate. Et elle a grimpé les échelons, parfois même au détriment, malheureusement, de certaines choses dans sa vie, dont deux mariages. Et à un moment donné, dans ce film, elle apprend qu'elle a une maladie, un cancer, et bien sûr, tout s'effondre pour cette femme. Tout s'effondre pour elle, d'autant plus qu'elle était sur le point de se voir atteindre une dernière promotion, se voir confier les clés du cabinet par son patron qui va partir à la retraite. Et en parallèle de cela, on voit une jeune avocate qui travaille dans le même cabinet qu'elle, qui sort tout droit de ses études, qui vient diplômée, et qui aspire aussi, qui a cette ambition de réussir, bien sûr, dans son métier. Et cette jeune femme, quand elle va percevoir les difficultés de sa supérieure, eh bien, on voit qu'elle va utiliser tout ce qui est en son pouvoir, y compris des coups bas, pour essayer de prendre le dessus et de prendre, on le comprend, le poste. L'aspiration à la grandeur transparaît clairement dans ce film et on voit même que parfois, pour arriver à nos objectifs d'être grands, nous sommes prêts aussi à ce que d'autres subissent les frais de ces désirs. Pourquoi aspirons-nous à cette grandeur? Pourquoi aspirons-nous à cette renommée? Je crois que quand on regarde en tout cas dans ce film, et je pense que c'est une réponse, une des réponses aussi valables pour chacun de nous, c'est que je crois que derrière ce désir d'être reconnu, eh bien, il y a ce désir d'exister. Il y a quelque chose de l'ordre de notre identité qui est rattaché à cela. Je vous invite ce matin à lire ce passage dans Marc, chapitre 10, versets 32 à 52. Je vais te laisser passer, Jonathan. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?»« Nous le pouvons » dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et peut-être vous vous posez la question et vous vous dites, c'est quoi ce lien entre ce qui se passe avec ses disciples et cet aveugle Bartimée ? En fait, ces deux récits sont chacun structurés autour d'une question commune de Jésus. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» dit Jésus à ses disciples. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demande Jésus à Bartimée, versets 36 et versets 51. Et on va voir que la réponse que vont faire ces personnes, deux publics différents, vont avoir deux réponses différentes. On va voir que ces deux réponses sont chacune liées à deux perceptions différentes que nous pouvons avoir de Jésus. Les demandes vont refléter aussi deux aspirations différentes. Et on va voir comment cette question de Jésus, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» révèle les motivations profondes de nos cœurs. On va voir dans ce passage que Jésus met en lumière le fait que les valeurs du royaume de Dieu sont totalement opposées aux valeurs de ce monde, que la grandeur dans le royaume de Dieu est liée à deux valeurs, service et humilité. On peut passer à la slide suivante. Tout d'abord, l'entretien de Jésus avec ses disciples. Jésus est en route vers Jérusalem depuis quelques chapitres. Il est en direction de la croix, il marche en direction de la croix. Il est avec ses disciples et avec plusieurs personnes qui le suivent. Et pour la troisième fois, Jésus va annoncer le fait qu'il est en route pour la souffrance. Il est en route pour mourir et donner sa vie, mais qu'il est aussi en route vers la résurrection. Troisième fois que Jésus mentionne sa mort, sa souffrance, sa résurrection à venir. Troisième fois que les disciples ne comprennent pas vraiment ce que Jésus dit. Et c'est pour ça que cette question qui arrive juste après cette annonce, cette troisième annonce de Jésus, est à quelque chose de surprenant. Et en fait, on sent que ça commence très mal pour les disciples. Des disciples qui disent à Jésus, « On aimerait que tu nous accordes ce qu'on va te demander. » Ça sent la demande modeste. Quand mes enfants viennent me voir et me disent « Papa, je vais te demander quelque chose, mais j'aimerais que tu me dises oui. » Je ne me fais plus avoir si je me suis déjà fait avoir une fois. Je vais dire « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Bien sûr, Jésus connaît les cœurs et c'est très bien ce que ses disciples vont lui demander. Mais Jésus prend le temps et Jésus leur pose la question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? On a envie que, quand tu seras dans ta gloire, on puisse être assis à ta droite et à ta gauche, lui disent Jacques et Jean. En fait, qu'est-ce que Jacques et Jean sont en train de demander à Jésus? Eh bien, il dit, en fait, on veut avoir les places d'honneur. On veut être, en quelque sorte, le premier ministre et le chef de cabinet à tes côtés. On veut les privilèges que cela va apporter. On veut une sorte de pouvoir. On aura très certainement à ses places de l'influence et très certainement de la reconnaissance. On sera regardé par les autres. En fait, on veut être les plus grands. Et cela reflète quelque part l'orgueil qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons être grands, nous voulons œuvrer pour notre nom, pour notre propre gloire. Et puis il y a dans cette demande quelque chose de très égoïste de la part de Jacques et Jean. Parce qu'on peut se poser la question, qu'en est-il des autres disciples? Et puis rappelez-vous, il y a un petit cercle encore plus proche de Jésus constitué de Pierre, Jacques et Jean, qui était formé un cercle encore plus proche de Jésus dans les 12. Et dans cette demande de Jacques et de Jean, on peut se poser la question, mais il en est quoi de Pierre? Et puis ne nous trompons pas sur le moment où les autres disciples s'indignent. Parce que ce n'est pas de l'indignation concernant la nature de la demande qui est déplacée. Mais en fait, quand les autres disciples s'indignent de cette demande, ils sont juste en train de dire « Oh, vous faites quoi là ? Et nous ? Vous nous laissez sur la touche ?» Ou il y a peut-être cette pensée de se dire « Zut ! Ils nous ont devancés dans la demande. Ils y ont pensé en premier. » Et les autres disciples, bien sûr, râlent parce qu'ils sont comme Jacques et Jean. Ils aspirent à la grandeur, ils aspirent aux mêmes choses. Et comme on l'a dit, cela reflète les désirs de nos cœurs marqués par le péché et qui agissent comme on le voit tout autour de nous, comme ça se passe dans un monde déchu. Où on veut se faire notre propre nom. Alors on ne va pas jeter la pierre aux disciples, sûrement pas, parce qu'on est un petit peu pareil dans notre fonctionnement. Et on va voir que leur demande est liée à leur perception de Jésus. Alors justement, qui est Jésus pour les disciples? Et ça va nous renvoyer quelques chapitres en arrière, au chapitre 8 de Marc, versets 22-26. Je ne vais pas le lire, juste vous rappeler les faits. Jésus rentre dans une ville avec ses disciples, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il va procéder à la guérison d'un aveugle en deux temps. La première fois, il va lui poser les mains sur les yeux, et l'aveugle va dire qu'il voit flou, il voit les gens comme des arbres, et Jésus va refaire un geste qui va amener l'aveugle à voir clair. Et c'était juste un récit révélé par Marc pour montrer quelle était la situation des disciples à ce moment-là. Les disciples qui étaient totalement aveugles vont juste après cet épisode voir flou, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que Jésus est le Messie, mais Jésus va leur montrer qu'ils ont, à partir de là, de ce chapitre 8, le besoin de comprendre aussi quelle est la mission de Jésus. Jésus est en route vers Jérusalem et les disciples pensent, ça y est, Jésus est le Messie, le roi promis, il va s'asseoir sur le trône dans la ville sainte. Il va avoir la gloire, il va chasser les Romains. Saisissons cette opportunité d'être à sa droite et d'être à sa gauche. Et cela révèle quelque chose de nos vies aussi, parfois. Quand on n'a pas tout à fait, ou pas toujours, cette juste perception de qui est Jésus. Combien parfois nos demandes à Jésus sont teintées de désir qu'il serve nos intérêts et nos ambitions. Et on voit combien, bien souvent, celles-ci sont en décalage avec la volonté de Dieu. Quelle est la réponse de Jésus ? Vous ne savez pas ce que vous demandez. En fait, Jésus leur dit, vous ne comprenez pas encore, vous n'avez pas encore compris quel est le sens de ma mission. Ma mission n'est pas pour l'instant de m'asseoir sur le trône à Jérusalem en tant que roi promis. Non, ma mission, c'est boire cette coupe et passer par ce baptême. Cette coupe, c'est dans l'Ancien Testament l'image, et dans le Nouveau aussi, cette image, cette réalité de la colère de Dieu, du jugement qui va s'abattre sur lui, des souffrances qu'il va subir à notre place. Le baptême, c'est cette image de la mort du Christ à notre place. Ma mission, elle n'est pas de monter sur ce trône pour l'instant. Ma mission, elle est de monter sur une croix et d'y aller à votre place. Et c'est pour ça que Jésus précise dans la foulée et redéfinit la grandeur pour ses disciples. Vous voulez être grand, leur dit Jésus. Eh bien, celui qui veut être grand sera votre serviteur. Verset 43. Jésus opère ce renversement des valeurs. Il dit, si dans le monde, les grands, et le terme pour cela, c'est les méga, les gigantesques, le manifestent par leur pouvoir, en contrôlant les gens, en les dominant, en recherchant les honneurs par cela, il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les grands, les méga, les gigantesques, ce sont des serviteurs. Aspirons-nous, nous aussi, à être grands? Désirons-nous, nous aussi, avoir de l'influence auprès des autres, des personnes qui nous entourent? Avons-nous à cœur aussi de marquer les esprits, peut-être de nos voisins, peut-être de notre conjoint, de notre conjointe, de nos enfants, de nos collègues de travail, de nos frères et sœurs dans l'Église, de nos amis. Si nous voulons marquer les esprits, avoir de l'influence auprès d'eux, alors servons-les. Quelqu'un a dit « L'influence par le pouvoir et le contrôle ne change pas vraiment une société ». Mais notre service envers les autres, reflet d'un amour authentique et désintéressé, peut avoir un réel impact dans leur vie. Une autre personne a dit « Le service est l'amour rendu tangible, rendu concret. » Pourquoi cela ? Jésus nous donne ce qui est la source, la motivation suprême de cette attitude. Jésus dit « En effet, le Fils de l'homme, donc il parle de lui, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce qui devrait nous amener à servir, à vivre cela, c'est parce que notre roi nous a précédés et nous a montré le chemin. Jésus est ce modèle de vie et de service à imiter. Jésus est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. La rançon, c'est le prix qu'il fallait payer pour la libération d'un esclavage. Jésus est venu pour payer ce prix fort en mourant à notre place. Il y a cette idée très très forte de la substitution. Et Jésus fait ici allusion, en tout cas les commentateurs sont assez unanimes sur cela, à ce passage d'Ésaïe 53 qui annonçait 800 ans avant la venue de Jésus la mission du serviteur, souffrir, mourir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On a ici le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle. On voit que Christ, notre roi, a fait passer notre intérêt avant les siens. Je vous lis cette citation et tu peux l'afficher. Si votre vision du monde est un homme qui se sacrifie pour ses ennemis, vous chercherez à influencer les autres par votre service plutôt que par le pouvoir et le contrôle. Quand nous avons saisi le sens de la croix, nous sommes propulsés dans le monde dans une joyeuse humilité. Nous n'avons plus besoin d'aider les autres, mais nous voulons les aider pour ressembler à celui qui a tant fait pour nous, pour lui faire plaisir. La question de savoir si les gens méritent notre service n'entre pas en ligne de compte. Seul l'Évangile nous donne une motivation suffisante. Après les disciples, Jésus va rencontrer Bartimée. Quels sont les premiers mots de Bartimée quand il entend que Jésus arrive à Jéricho ? Aie pitié de moi. Et là, déjà, le contraste est marqué avec les premiers mots des disciples. Accorde-nous ce qu'on va te demander. Aie pitié de moi. Bartimée implore la miséricorde de Jésus. Il implore sa compassion. C'est un aveugle, c'est un mendiant. Il est au bord du chemin, là où les disciples sont sur le chemin. Il est en marge de la société. Il dépend totalement de la générosité des autres pour vivre. Et ses premières paroles pour Jésus sont « Aie pitié de moi, je n'ai rien à revendiquer, je n'ai rien à faire valoir, simplement fais preuve de miséricorde et compassion. » Quelle est la demande de Bartimée quand Jésus lui pose cette question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée lui dit « Que je retrouve la vue. » À nouveau, toute l'humilité de Bartimée en opposition au désir parfois égoïste et orgueilleux des disciples. Bartimée a simplement le désir de voir. Les disciples veulent être vus. Tout ce que Bartimée demande, c'est une santé ordinaire. Les disciples veulent une gloire extraordinaire. Tout ce que Bartimée veut faire, c'est de suivre Jésus sur le chemin vers Jérusalem. Tout ce que les disciples veulent, c'est s'asseoir dans la gloire. Ce que Bartimée demande, c'est simplement d'être humain. Ce que les disciples veulent, c'est être surhumain, comprenez par là, au-dessus des autres humains. Notre citation, que tu peux afficher, Jonathan. Pour les bien portants, la normalité peut sembler le strict minimum. Mais pour les malades et les personnes en difficulté, la normalité est le plus grand don de Dieu. Quelle est la perception de Jésus ? Quelle est la perception que Bartimée a de Jésus ? Eh bien, on voit finalement que Bartimée voit bien plus clair sur qui est Jésus que les disciples eux-mêmes. Il l'appelle Jésus, fils de David. Fils de David, c'est ce terme, bien sûr, qui évoque le fait que Christ était ce Messie, ce roi attendu. Et Jésus signifie « Dieu sauve », « Dieu délivre ». Et on peut se poser la question, si à ce moment-là, dans Jéricho, Bartimée n'a pas le souvenir de ce récit d'un autre Jésus qui est rentré bien des centaines d'années avant, Josué, qui a la même racine que Jésus, et qui est entré dans Jéricho pour conduire son peuple, le peuple de Dieu, vers la terre promise. Quelle est la réponse de Jésus à Bartimée ? La première, c'est que Jésus s'arrêta. Alors que Jésus est en chemin vers la croix, vers des souffrances abominables, vers son sacrifice, Jésus prend le temps de s'arrêter pour un petit de la société. Le maître, celui que Bartimée appelle maître, Rabouni, est celui qui va servir Bartimée. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres versions, ta foi t'a guéri. Bartimée va être au bénéfice de cette guérison physique et on sait encore que Jésus est tout-puissant, qu'il est Dieu, qu'il a cette capacité encore de guérir des personnes malades, comme Bartimée. On sait qu'il ne le fera pas systématiquement, que ce ne sera pas toujours le cas, mais on a ici, de nouveau, dans ce miracle de guérison, Jésus qui est en train de dire aux gens qui l'entourent, « Le royaume est proche avec ma venue. » Et vous avez envie d'avoir un avant-goût de ce que va être le royaume quand je vais venir l'établir, eh bien ce sera cela. Il n'y aura plus d'aveugles, il n'y aura plus de mendiants, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse. Bartimée est aussi au bénéfice d'une guérison spirituelle. Il est mentionné, verset 52, « Bartimée suivit Jésus sur le chemin ». Voilà le modèle du disciple, selon Marc. Et tu peux afficher deux slides plus loin la troisième citation. Jésus a transformé Bartimée, qui était un mendiant au bord de la route, en un disciple sur la route. La foi qui ne mène pas à la vie de disciple n'est pas une foi salvatrice. Quiconque doit être prêt à le suivre, même sur le chemin escarpé qui mène à la croix. Tu peux afficher la slide suivante. Voilà une question pour nous que nous pouvons aussi poser aux personnes autour de nous. Que veux-tu, que voulez-vous que je fasse pour toi, que je fasse pour vous ? Quand nous posons cette question aux personnes qui nous entourent, nous imitons Jésus, notre roi serviteur. Quand nous posons cette question aux personnes qui nous entourent, nous leur affirmons, nous leur montrons notre disposition de service et d'humilité. Qu'est-ce que je peux faire pour toi sur le plan matériel? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aussi sur le plan spirituel? Comment est-ce que je peux prier pour toi cette semaine? Qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta vie qui nécessite un soutien par la prière? Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu? Comment est-ce que je peux t'aider à mieux connaître Christ? Est-ce que tu serais d'accord qu'on puisse lire la Bible ensemble, prier ensemble? Est-ce que tu as du temps pour cela? Est-ce que tu veux qu'on chemine ensemble, qu'on partage aussi sur nos vies, sur nos joies, sur nos défis? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dans cette question qu'on adresse à tous nos proches, gardons aussi cette ligne directrice que Jésus avait aussi dans son ministère. Tournons-nous vers les petits de ce monde, des personnes qui ne pourront pas forcément toujours nous rendre la monnaie de notre pièce, qui ne seront pas toujours en capacité de nous rendre la pareille. Mais comment est-ce que je peux honorer Dieu en honorant celles et ceux qui sont petits aux yeux de ce monde? Je termine. Tu peux afficher la encore une slide. Ouais. Par grâce, ce sera mon mot de la fin, par grâce et avec l'aide du Saint-Esprit, imitons Jésus-Christ, notre Maître, en vivant ces deux valeurs du royaume, service et humilité. Et si vous n'aviez qu'une chose à retenir de ce que vous avez entendu ce matin, c'est ceci: parce que Jésus est le grand roi qui s'est humilié pour nous servir, soyons grands en servant humblement les autres. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli pour nous. Merci parce que tu es celui qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies. Et tu sais que même en t'appartenant, on a toujours ces désirs qui sont là, qui nous titillent. Et ce désir d'être connu, d'être reconnu aux yeux des autres. Et Seigneur, c'est un encouragement ce matin, ce passage, de nous rappeler qu'on a tout obtenu au travers de ce que Christ a accompli pour nous. Tu nous as déjà tout donné, tu as fait de nous tes enfants grâce à ce sacrifice, à cette mort, cette résurrection. Tu es vivant et on est dans cette relation par la foi avec toi. On est tes enfants. Et on a déjà tout obtenu, notre valeur est en toi. Alors Seigneur, que tu gardes nos cœurs plus que toute autre chose, tu nous aides à veiller sur nos cœurs, sur nos désirs, sur nos ambitions, et que tu nous aides par ton esprit à vivre cette réalité du service. Que l'on soit connu dans notre passage sur cette terre comme des personnes qui étaient disponibles, qui donnaient de leur temps, de leur énergie, pour les personnes qui étaient autour de nous. Seigneur, je veux te prier aussi pour l'une ou l'autre qui serait là ce matin et qui n'est pas encore ton disciple, qu'il ou elle puisse saisir, Seigneur, cette réalité de qui tu es, combien tu es venu et que tu as tout quitté pour venir sur cette terre et vivre cette vie que nous n'arrivons pas à vivre, et prendre cette place sur cette croix pour nous porter nos fautes, nos manquements, notre orgueil, notre égoïsme si marqué. Et tu as payé les conséquences pour cela à notre place, et qu'aujourd'hui, si on croit cela, eh bien, on est sauvé de cette coupe et de ce jugement qui est à venir, et qui viendra certainement parce que tu nous le dis. Seigneur, que, voilà, que chacun ici puisse s'examiner ce matin et réaliser s'il il ou elle est bien en chemin à ta suite et par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.